Mesdames, messieurs, toutes les personnes entrent et au-delà.
Bonsoir Paris.
Salut. Yeah. Alors bienvenue.
Assez de société qui ne respecte pas les transsexuels.
C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir.
I'm like so gay, dude.
Si vous dites à un homosexuel, vous êtes homosexuel, il a pas de souci.
Je pensais avoir tout vu ou presque des agissements des lobbies.
Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Darling, I want my gay rights now.
Si tu dis un homosexuel, tu es une folle, c'est pas le même registre.
Et je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées.
Moi je sais bien quand c'est sexiste, je me rends compte assez vite quand même.
C'est toujours les plus à même de raconter leurs histoires.
Le lobby sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à tous, au sommaire aujourd'hui. Un regard queer à hauteur d'enfant, c'est ce que notre invité propose dans son premier roman. Nous voilà plongés dans les couloirs d'un collège et dans les yeux d'un ado qui traverse la vie dans une sorte d'acouphène permanent, nous dit-il, abîmé par la violence de la domination adulte, abîmé aussi et surtout par l'inceste que lui inflige son père et qui s'engage timidement mais sûrement sur le chemin de sa libération, de son émancipation. Bonsoir Juliette Drouard.
Bonsoir.
Cui-Cui, c'est le nom de ce roman à couper le souffle qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Cui-Cui, un nom très léger pour un roman qu'il est parfois beaucoup moins. C'est le nom que se donne votre héros lors d'un groupe de thérapie autogérée, on va y revenir. Et c'est le seul nom d'ailleurs qui désigne ce personnage, d'où est-ce qu'il vient ?
C'est venu un peu comme ça, mais je pense que la première fois où il y a cui-cui comme expression, c'est dans les premières pages où à un moment donné, il se dit à lui-même « Ah, cui-cui les petits oiseaux, ouais. » genre. T'es un peu.
Et il redit d'ailleurs cui-cui les petits oiseaux en jouant avec cui-cui et cuir le participe passé.
Voilà. Et c'est sous-entendu, ça va pas super bien non plus dans la tête. Mmh. Et donc il y a une allusion là-dedans déjà un peu à la folie. Et puis je pense que, bah, je sais pas, cui-cui c'était à la fois l'enfance, mais dans ce qu'elle peut avoir de. D'inquiétant, en même temps que de tendre, en même temps que de drôle.
On va pouvoir en parler dans un instant. Je vous présente d'abord l'équipe qui va nous accompagner ce soir, et c'est d'abord le retour de Chat. Salut Chat.
Salut Colin.
Ou plutôt devrais-je dire Père Castagne.
Toujours.
De quoi on parle?
Oh, de tout et de rien. Vraiment, je ne sais pas de quoi je parle dans cette chronique.
D'accord, n'hésite pas à commencer à l'écrire, parce que tu passes dans 20 minutes à peu près. Voilà, nous aussi on est bons en surnom dans cette émission. En fin d'émission, un revenant qu'on est trop contente d'avoir avec nous. Salut Victor.
Salut Colin, salut tout le monde.
Je te demande pas de quoi tu parles, parce que sinon je vais pleurer.
Mais non.
Bon, on découvrira ça à 20h55 en tout cas. À 20h45, juste avant dans l'agenda, c'est l'artiste Maddy Street qui nous rejoindra à quelques jours de son concert à la Boule Noire à Paris, où elle présentera les titres de son dernier EP, Hurt Choices. Voilà, bah vous avez le programme de cette émission réalisée par Suzanne Cinca. On est ensemble en direct jusqu'à 21h.
Le lobby. Radio Campus Paris.
Juliette Drouard, vous faites donc paraître Cui-Cui aux éditions du Seuil. J'ai parlé d'un roman à couper le souffle parce que vous avez cette écriture ciselée, parfois presque accidentée, à la fois parce que c'est un adolescent qui s'exprime, qui est le héros, le personnage principal de ce roman, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait aussi une façon de faire entendre par la langue comment l'inceste, comment la violence s'imprime, s'incarne dans le corps.
ouais, j'espère. Enfin, en tout cas, la langue reflète ça.
Ouais. On sent que vous y prenez beaucoup de plaisir, en tout cas,
ouais.
Cette langue qui cherche pas à imiter un parler adolescent. C'est peut-être pas tout à fait comme ça que les jeunes parleraient aujourd'hui, mais en tout cas, il y a une poésie un peu dans la manière de s'exprimer, quoi.
Ouais, c'est pas une langue qui est vraiment préméditée. C'est plutôt, effectivement, je pense, une partie de moi qui doit avoir à peu près cet âge-là, plus le moi que je suis aujourd'hui, et qui a collecté un peu plein de mots, parce que j'aime bien les mots, et auprès des gens, en fait, plus qu'auprès des livres, mais... Et du coup, c'est effectivement un peu le rassemblement de tout un langage où à la fois, voilà, peut-être une partie plus jeune, et en même temps, des fois, il y a plein d'expressions qui sont hyper désuètes. Donc c'est aussi...
Comme quoi, par exemple, donnez-nous quelques exemples, parce qu'effectivement, c'est assez intéressant de voir rencontrer.
Non,
j'aurais dû en noter.
Ouais, non, je peux pas te dire, mais c'est effectivement un langage assez créatif, parce que c'est aussi un langage qui lui permet de soutenir sûrement un certain nombre de violences, et qui permet de soutenir aussi... le ou la lectrice dans sa lecture, je pense, y compris dans le fait que ce soit drôle, voilà, d'essayer de Enfin, j'espère.
c'est drôle aussi, effectivement, il y a aussi cette tension sous-jacente entre un sujet très dur et quand même une grande légèreté dans la manière dont c'est écrit. C'est votre premier roman, mais ce n'est pas la première fois que vous écrivez sur les violences sexuelles faites aux enfants. Vous avez co-dirigé en 2022, aux côtés d'Iris Bray, qu'on a reçu ici, l'ouvrage collectif La culture de l'inceste, c'était au Seuil également. C'était un ouvrage essentiellement théorique, mais qui se finissait par une fiction écrite à plusieurs mains, sous la direction de Wendy Delorme, si je ne dis pas de bêtises. Et je crois que c'était votre idée, Iris Bray écrit dans l'intro, je ne sais pas si c'est une phrase de vous, « La fiction qui ne concède aucune humanité au prix de l'abstraction, qui incarne, car cela se passe dans les corps. » Dites-nous en plus. Pourquoi la fiction?
Je me suis dit, ah, c'est bien dit. Non, je vais m'arrêter là, en fait. Je suis meilleur à l'écrit, je m'en rends compte.
Dites-nous en plus, pourquoi ce passage à la fiction était intéressant? Après, en plus, vous avez écrit d'autres ouvrages théoriques. Il y a aussi « Sortir de l'hétérosexualité » aux éditions Binge Audio il y a quelques années.
Ouais. Bah, en fait, j'ai... Déjà, effectivement, je trouve, par rapport à cette phrase, c'est juste pour dire que bah, c'est la justesse possible aussi, la fiction, parce que du coup, c'est une parole à soi, alors que quand on monte en généralité, en théorie, forcément on prétend être d'autres personnes que soi-même. Donc à un moment donné, on perd fatalement un peu de justesse à le faire. Et sinon, pour la fiction, j'ai plutôt commencé par la fiction. En fait, j'ai commencé par l'artistique. J'étais peintre plus jeune, c'était d'abord mon premier truc.
Vous êtes art-thérapeute aujourd'hui aussi.
Ouais. Et donc oui, j'avais écrit de la fiction, mais j'avais jamais réussi à publier autrement qu'à compte d'auteur, donc je suis très content que finalement ça arrive.
Félicitations. Ici, Juliette Drouard, au Lobby, on est bien sûr une émission queer. Quel rapport entre les luttes LGBT et les luttes contre la domination adulte, dont on va reparler un petit peu plus tard au cours de cette émission?
Oh punaise, bah, je prends une gorgée d'eau.
Il y a des questions plus faciles après.
Bah ouf. Bah, je dirais après, bon, c'est moi, la manière que j'ai de voir les choses, c'est plutôt que quand on a un rapport de domination aux autres, il rayonne en fait. Et peut-être que plus on a une altérité qui est déjà forgée par la société, donc sur des bases de différence, évidemment que ça peut être une racialisation ou comme tu disais, l'homophobie, la transphobie, peut-être plus le rapport du coup à l'altérité qui est déjà malmenée va pouvoir encore plus s'exercer ou se lâcher, parce qu'en plus il y a une possibilité dans le rapport de force de le faire. Mais je dirais que c'est comme ça pour moi que je connecte toutes les dominations. Je sais pas
c'est
si
plus on se
clair,
rend compte de la domination qu'on subit, plus on se rend compte des autres endroits où elle s'exprime, c'est un peu ça.
Plutôt de dire que je pense que quand on a un rapport de domination à l'autre, de manière générale, on va l'exprimer envers tout autre, et d'autant plus qu'il y a des autres sur qui c'est plus facile de taper, parce qu'on les présente déjà comme mauvais, comme mauvais quoi, et mauvaises. Mais donc pour moi, c'est vraiment un rapport à l'autre qui est un peu fucké, et qu'on apprend dès le début par des formes de soumission, y compris dans l'enfance, par rapport à l'autorité, à une morale dont l'important, c'est d'abord d'obéir.
Juliette Drouard, vous êtes notre invitée ce soir pour parler de Cui-Cui, votre premier roman paru au Seuil 21-9.
Le Lobby.
Et je crois qu'il faut toujours écouter.
Radio Campus Paris.
Et c'est l'heure de vous donner des nouvelles de notre podcast hebdomadaire qui reprend du service après une petite pause, parce que ça demande beaucoup de travail. La semaine dernière, on vous parlait de l'exposition Nucléaire, une expo photo consacrée aux parentalités queer à découvrir cette semaine et jusqu'à ce dimanche. Dépêchez-vous d'y aller au DOC, c'est dans le 19e arrondissement de Paris. Et puis ce vendredi, nouvel épisode en compagnie du journaliste Thibault Lambert. Il vient de publier une enquête, « Ce que Grindr a fait de nous » aux éditions J.C. Lattès. Fidèle utilisateur de Grindr depuis ses 17 ans, il en a 29 aujourd'hui, il a rencontré d'autres utilisateurs de l'application, mais aussi des médecins, des psys, des chercheurs, et surtout, il raconte son propre rapport à Grindr. Thibault Lambert publie donc non pas un livre à charge, mais plutôt un appel à remettre cet outil au cœur de la grande conversation communautaire qui s'impose.
Le livre, il s'appelle aussi « Ce que Grindr a fait de nous ». C'est pas tellement pour dire que Grindr, en tant que tel, a fait quelque chose de nous, c'est parce que aussi c'était un refrain. C'est comme un refrain que j'entendais en permanence. Grindr a fait ceci, Grindr a fait cela, Grindr nous rend malheureux, Grindr fait que on se consomme tous les uns les autres, on passe d'un mec à l'autre sans parfois même demander son prénom, etc. Et en fait, je pense que c'est quelque chose... Il y avait vraiment un inconfort dans la sexualité qui était palpable, que je sentais autour de moi, même sans vraiment creuser très très fort. Et je me disais, mais c'est fou parce que, enfin, il est là quand même le malaise, et personne veut vraiment en parler. Il y a quelque chose, il y avait quelque chose de, ou alors on en parlait, mais Grindr était pas vraiment au milieu de la conversation. Grindr, c'est tellement omniprésent, c'est tellement énorme qu'on questionnait pas vraiment en fait le fait même que de base il y avait cette plateforme qui était là et qui était la toile de fond de notre sexualité. Et peut-être que je me disais, bah commençons par là en fait. Et je voulais, par cette enquête, que les personnes qui le liront questionnent à la fin leurs propres usages. Mmh. Moi, si à la fin, les lecteurs, ils disent « Ah, ben, moi, ça me fait réfléchir parce que moi, finalement, c'est vrai que je me comporte comme ça, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé et en fait, ça, ben, ça renvoie à telle conception de la masculinité ou autre. » S'il y a des lecteurs qui font ça, je me dis que déjà, j'ai fait ma part du travail modestement parce que je pense que c'est le mal-être, ou en tout cas, je ne dis pas que tout le monde est malheureux, mais il y a quand même une partie de la communauté, il faut se le dire, qui ressent un malaise dans sa sexualité. Et je pense qu'on le réglera que si il y a une prise de conscience un peu collective et surtout une interrogation individuelle de ses propres usages de Grindr.
Thibault Lambert au micro de notre journaliste Lucie. Épisode à découvrir en intégralité ce vendredi sur les applications de podcast et sur le site de Radio Campus Paris. L'actualité, c'est aussi la Star Academy, dont on a beaucoup parlé le mois dernier avec une finale opposant la star Ebony, victime de misogynie noire sur les réseaux sociaux notamment, à la fan favorite Marine, qui a largement remporté une saison plus politique que jamais. C'est l'occasion d'écouter le premier titre de Djibril, candidat très queer de la saison précédente, Djibril Slatni, J'irai danser dans le lobby de Radio Campus Paris. C'est tout de suite. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 21h.
Je n'ai plus d'amis, cette année m'a rendu si fébrile. Toutes mes envies, trop ambitieux, faudrait que je maigrisse. Mon téléphone vibre, le jour je dors, je l'évite. Dans ma tête sacrée, du mal à voir ce qui m'attriste. J'ai peur de s'ouvrir, car depuis le temps c'est le vide. Le feu est rouge. Je crois que c'est mon tour. J'y croirai toujours, même si tout s'écroule. Tout part en miettes, mais moi j'irai danser. Mais je perds la tête qui m'empêchera de danser. Tout part en miettes, mais moi j'irai danser. La vie des autres sur mon tel. J'ai 23 pieds, je pense à mourir. La vie d'adulte me fait pas rêver. Je sais pas ce que j'aime, je suis lunatique. Aucun mec, non, non, aucun ex, non, non. J'ai bien fait de penser qu'à moi-même. Le feu est rouge. Je crois que c'est mon tour. J'y croirai toujours, même si tout s'écroule.
J'irai danser, premier titre donc de Djibril Slatni, 20h14.
Why can't I say the word? I mean, why can't I just say
le lobby?
Susan, I'm gay.
Radio Campus Paris.
Et nous sommes de nouveau en compagnie de Juliette Drouard à l'occasion de la parution de Cui Cui, c'est votre premier roman. Un roman qui raconte donc l'inceste que votre héros subit, votre personnage principal subit de la part de son père. L'inceste, on en a parlé tout à l'heure, il s'incarne au sens où il s'imprime dans le corps de Cui Cui, il fait des malaises, il vomit, il a des boutons purulents qui lui poussent sur les doigts. Autant vous ne racontez rien des viols qui sont effacés comme Cui Cui les efface de sa mémoire, autant vous racontez toutes les conséquences physiques et psychiques bien sûr de ces incestes. Pourquoi avoir fait ce choix ?
Le choix de ne pas raconter.
Ouais, et de raconter, mais par contre de le montrer de manière très visuelle, les conséquences.
Bah déjà, je pense que j'avais vraiment envie qu'il n'y ait aucune possibilité de voyeurisme. Mmh. Donc pour moi, le fait que toutes les scènes d'agression sexuelle, elles soient complètement en creux et en fait, où on sent qu'il n'y a aucune tension sexuel, je sais pas comment dire autrement, mais ça n'habite à aucun moment le livre, et pour moi c'était important que ce soit absolument nettoyé de ça. Je sais pas comment dire autrement, c'est pas un jugement moral d'ailleurs quand ça l'est pas, mais pour moi c'était important qu'on puisse être, même malgré soi, à aucun moment dans une forme d'excitation par rapport à ça. Et après, pour ce qui est des symptômes, bah, je pense que c'était important de montrer toutes les manifestations psychiques et physiques. Enfin, pas toutes, mais en tout cas, un certain nombre qui entraient au TCA, effectivement, aux réactions sur la peau. Donc, il y a plein de... Et psychologiquement, un stress effroyable, des émotions qui sont très fortes. Donc... Pour que effectivement ça, qu'on puisse prendre conscience aussi de l'amplitude des symptômes en fait, que
oui,
ça peut revêtir.
Il y a presque quelque chose, alors je ne sais pas ce que vous allez penser de ce mot, mais de presque pédagogique dans votre livre, où vous nous dites voilà à quoi ça ressemble aussi l'inceste dans une société. C'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup d'activistes et d'autrices, je pense à Cécile C notamment sur Instagram, qui dit on est une société pas entraînée à repérer les symptômes et les manifestations de l'inceste. Et donc votre livre cherche peut-être aussi un peu à combler
absolument,
à combler
c'est
ce vide.
Tout à fait c'est un livre qui est très comment dire, motivé politiquement, ce qui n'a pas toujours été le cas d'ailleurs pour moi en écrivant des fictions. Hein. C'est juste que là, factuellement, effectivement, ça l'est. Mais il y a une recherche d'écriture qui fait qu'on n'est pas dans, comment dire, un livre à thèse, dans le sens où tout d'un coup, ça deviendrait trop démonstratif. Mais par contre, il y a un but, quoi. Clairement, il y a plusieurs buts qui est à la fois informatif, à la fois d'imaginer. Parce que imaginer, c'est déjà rendre possible un petit peu un monde où les mineurs peuvent voter.
On va en parler dans la prochaine partie de cet entretien. On parle, en tout cas, j'ai l'impression, de plus en plus d'inceste dans la société. On peut parler du podcast de Charlotte Pudlowski ou peut-être Une nuit, le livre de Camille Kouchner dans la foulée La Familia Grande, des travaux d'autrices féministes comme Axel Jadjiquet. Il y a une attention, en tout cas, médiatique à ce sujet. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ce que je dis ou, Et vous vous en félicitez? Est-ce que vous êtes content aussi du traitement qui en est réalisé ou, est-ce que...
Enfin, extrêmement, on peut vraiment s'en féliciter parce qu'en fait, c'est très très rare dans l'histoire. Je pense qu'on serait surpris que ce soit pas du tout autant dans le paysage médiatique dans d'autres pays.
Il y a un retard en France, vous voulez dire?
Non, pas du tout.
On est très en avance,
ce moment, en ce moment, en tout cas, c'est rare qu'il y ait des vagues comme ça où on parle d'inceste et où on dit ce mot. Enfin, En 2018, j'avais organisé un premier festival où il y avait une conférence sur l'inceste, je me rappelle que justement il n'y avait quasiment que Dorothée Ducy en termes de... Là, je parle d'écriture d'essai.
Oui, donc Dorothée Ducy, anthropologue incontournable, qui a écrit donc Le berceau des dominations.
Mais à l'époque, justement, ce n'était pas du tout un incontournable. C'est à l'époque, le livre était épuisé, il était introuvable. C'est vraiment parce que j'ai fait des recherches en étant là. Bon, qui c'est qui a bien pu écrire sur l'inceste en tant que structure et non pas comme quelque chose qui est terrible et qui arrive, mais à la marge, quoi. Et en fait, il n'y a que son livre qui existe. Donc c'est rare ce qui se passe. Et donc c'est très important de continuer parce que c'est assez exceptionnel, justement.
Oui, vous parlez de Dorothée Ducy, elle a peut-être pas fait date au moment où son livre est sorti, mais effectivement elle fait figure d'exception dans le milieu de l'anthropologie où elle dit, oui, l'inceste effectivement c'est pas extraordinaire, c'est, elle dit, quelque chose qui est structurant de l'ordre social. Est-ce que vous pourriez revenir un peu, qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? Sachant que c'est entre 5 à 10% des Français qui sont touchés, les études varient, mais voilà, se rendre compte aussi que c'est un...
Ouais, je dirais à la fois structurant et symptomatique parce que c'est un peu, c'est dur de savoir quelle est l'œuf ou la poule, mais structurant dans le sens où c'est un apprentissage de la domination de la manière la plus effractante et symptomatique aussi de la domination, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vraiment écraser l'autre.
Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez co-dirigé cet ouvrage qui s'appelle « La culture de l'inceste », pour reprendre aussi cette expression de culture du viol, justement bien insister sur le fait qu'il y a une culture, que c'est un système organisé, quoi.
Exactement.
Et alors on en parle effectivement de plus en plus dans l'espace public, dans les médias, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on en parle quand même un peu plus dans l'espace privé, dans les familles, puisque c'est un petit peu le principe de l'inceste aussi, c'est qu'il impose sa loi du silence. Est-ce que vous avez un moment envisagé ce roman aussi comme une pierre à l'édifice pour faire rentrer, comme par effraction de nouveau, ce sujet dans les discussions dans l'espace privé? Parce que c'est super d'en parler dans les journaux, mais si ça ne règle pas le problème à la racine ou les cas particuliers, ça ne fait pas forcément avancer le souci.
Bah en tout cas, j'ose l'espérer, oui, que ça soit. Et puis c'est une littérature aussi... on a hésité à publier ce roman en littérature young adult. Mmh. Pour moi, était même... Enfin, un souhait. Après,
pour qu'il soit dans les CDI, pour qu'il soit...
Complètement. Mmh. Et je pense que c'est vraiment enfin, ce à quoi je vise et j'aspire, même si je dois moi en acheter pour en mettre des CDI. Mais plus vraiment, voilà, pour que étant jeune, on puisse lire aussi des livres... voilà, qui décrivent à la fois comme tu disais des symptômes, des états psychiques, ouais. des lois, des états de fait, et qu'on puisse y avoir accès tôt, parce que c'est hyper important que les adultes soient au courant, mais comme c'est les enfants qui le vivent, encore faut-il qu'elles soient au courant aussi.
L'identité queer, Juliette Drouard, elle est centrale dans ce livre. Tout le monde genre votre personnage principal au féminin, sauf lui qui se genre au masculin, qui a déjà une conscience assez aiguë de ne pas être une fille. Le mot trans, les mots transidentité n'apparaissent pas, mais le questionnement est très présent. Est-ce que c'est une façon de poser la question aussi du lien potentiel, pas forcément de conséquences d'ailleurs, entre les violences sexuelles vécues dans l'enfance et la queerness? Je pense aussi à ce que Mathieu Fouché avait écrit dans son article sur le MeToo gay il y a quelques années, en 2021 je crois. Il mettait en lumière que les gays avaient probablement été bien davantage victimes de violences sexuelles dans l'enfance, en tout cas c'est ce qui sortait des entretiens qu'il avait menés avec des psys, etc.
Bah, je ne m'engagerai pas vraiment dans la voie de faire des statistiques ou pas par rapport à ça, quoi. Je pense qu'il y a plein de... Il faut écouter l'histoire de chacun chacune pour savoir comment sa sexualité, son genre, son sexe s'inscrivent, quoi, dans son histoire singulière. Ça peut être lié à des violences sexuelles ou pas, je pense. Voilà. Enfin, moi, je n'ai pas envie de généraliser, en tout cas, ou d'essayer.
Mais dire qu'en tout cas, c'est possible et que ça ne devrait pas être un tabou, quoi.
Ouais, tout à fait, évidemment. Pourquoi pas et en l'occurrence, personnellement, je sais que ça a été en partie mon cas, que ce soit le cas. Mais je sais aussi que j'ai des personnes pas du tout. Mais personnellement, c'est sûr que avant ma transition, j'avais un rapport aux... Enfin, remarque, c'est toujours un peu la même... Peut-être moins maintenant. Mais aux hommes cis-hétérosexuels, qui étaient de l'ordre de la peur, quoi. La peur physique et vraiment d'une terreur qui enjoint pas vraiment à désirer l'autre tranquillement, sexuellement. Donc pour moi, ça a été une composante. Ouais. Ça veut pas dire que ça l'est pour plein de gens, ça ne l'est pas.
Bien sûr, ouais. Iris Bray écrit dans l'introduction de la culture de l'inceste que la découverte du lesbianisme aussi, de son identité lesbienne, lui a sauvé la vie. C'est presque l'expression qu'elle emploie,
ouais,
si,
tout à
si
fait.
Je me souviens bien. Ouais. En 2022, toujours dans la culture de l'inceste, on trouve un magnifique texte de Tal Peter Broth-Merks, auteur, chercheur, philosophe, queer et féministe, lui aussi victime d'inceste. Il s'est suicidé en octobre 2021 pendant la rédaction de cet ouvrage collectif. Il n'est pas forcément extrêmement connu, c'est un nom, j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus paraître aussi, parce que du coup ses travaux ont été publiés à titre posthume. Est-ce que vous pouvez un peu nous le présenter et qu'on comprenne aussi, qu'on puisse le resituer dans ce qu'il a pu apporter à ses luttes pour les droits des enfants notamment, pour leur prise en considération?
Il a effectivement beaucoup écrit à cet endroit-là, et il avait notamment développé le concept de l'innocence comme étant quelque chose qui permettait la domination des enfants sous couvert de les protéger. Mais oui, c'est quelqu'un qui a énormément écrit à ces endroits-là, et qui proposait aussi de se souvenir, c'est-à-dire de proposer comme une des solutions, aide à lutter,
réflexion.
Voilà, piste de réflexion, merci, à lutter contre les dominations, De se souvenir de son enfance.
Oui, c'est ça. Son texte, il s'appelle « Oreilles cousues et mémoire mutine » dans cet ouvrage collectif. Il appelle effectivement les adultes à ne pas oublier l'enfant qui elles ont été pour éviter de reproduire aussi les violences subies. Est-ce que écrire ce roman aussi cuit-cuit, c'était une façon de ne pas oublier, vous, l'enfant que vous avez été ? J'ai l'impression même que cet enfant que vous avez été est presque le co-auteur du livre, quoi.
Mais absolument. Mmh. Sûrement le lead, même.
C'est l'adulte Juliette Drouard qui est co-auteur.
Exactement. Je pense que c'est impossible d'oublier, mais par contre, en fait, je pense qu'on se souvient tous, mais que c'est difficile d'exercer un travail de réflexivité par rapport à ça, ou de conscientisation de quand on se rappelle et est-ce qu'on est en empathie avec ce dont on se rappelle. Pour moi, c'est aussi ça une des questions principales. Mais oui, je pense qu'on est... On est assez pluriel. On a des petites parties de soi, voilà, qui peuvent rejaillir de temps en temps. Et en l'occurrence, comme tu le disais, moi, de toute façon, il y a cette forme de permanence. Il y a des âges qui sont marqués, notamment aussi par la violence. Et je pense que ça s'inscrit dans le corps comme des formes un peu d'éclat de soi. Et que pour moi, en fait, cette partie-là, alors que ce n'est pas un style d'écriture que j'ai forcément ailleurs, c'est tout de suite imposé et j'ai... juste suivi, quoi. Très franchement, j'ai pas vraiment cherché à construire. Ou à...
Parce que vous voyez aussi dans cette piste que vous avez suivie quelque chose de libérateur, de salvateur. Il y avait quelque chose de cet ordre-là aussi dans la nécessité d'écrire ce roman.
Mais en fait, que tu disais la notion de plaisir à écrire, mais en fait, que j'aime, quoi. C'est encore une fois, c'est une partie qui adore les mots aussi, qui est drôle. Enfin, y a un plaisir à suivre cette partie-là qui est fort. Et j'avais lu Ursula Le Guin, donc qui est une autrice de science-fiction féministe, qui est malheureusement décédée, mais j'avais lu qu'elle écrivait sur quelle était sa manière de faire. Et elle disait, moi, des fois, y a deux, trois incohérences dans certains de mes mondes parce qu'en fait, je suis mes personnages. Je les laisse me guider et m'emmener avec elle. Et donc, je me disais, ah tiens, c'est marrant et tout, je vais essayer. En me disant, bon, peut-être que ce ne sera pas assez cohérent pour faire un arc narratif. Et en fait, pas du tout. Comme quoi, ça a déroulé, j'ai rien eu besoin de faire.
Ce fameux enfant Juliette Drouard qui a donc pris les rênes. Juliette Drouard. On va se retrouver dans un court instant, parce qu'à 20h27, presque 28, sur Radio Campus Paris, c'est presque le meilleur moment de cette émission, en compagnie du rayonnant Père Castagne.
Oh Colin, la Catherine t'amènera nulle part, voyons.
Ah mais si, j'insiste, vous êtes radieux, plus lumineux que le soleil, plus éclatant qu'un diamant.
Oh là, avec un numéro de charme, arrête, je suis trop amoureux.
Mais plus doux qu'un bisou d'un bidou de chaton, plus ferme que... Attendez, mais ça continue comme ça sur une page, Père Castagne. Je vais pas pouvoir lire tout ça, il va falloir commencer votre chronique, là.
Ah, putain, on peut pas lui confier un lancement, il finit toujours par... Il devient désagréable, il foire tout. Hélas, le bon vieux temps où les animateurs lisaient les relances sans broncher et révolus, la belle époque où on pouvait faire passer des vessies pour des lanternes, un salut nazi pour un bisou cœur avec les mains. Ah, mon cruel. Oui, oh, ça va, j'y vais, je me... Voilà. Bon, allez, 3, 4, tous en cœur. Père Castagne,
raconte-nous une histoire, Père Castagne.
Il y a toujours que nous deux quand même, hein,
ouais,
si je me permets. Je trouve que quand même je fais bien les choses.
Ouais, fais-toi mousser, ouais. Bon, je vous préviens, moi j'ai écrit cette chronique, j'avais pas mangé, ok, donc elle est un peu acide. Ah, je te vois rouler des yeux, Colin. On réglera ça à la sortie de l'école. Je vais te 49.3 comme Bayrou,
ouais,
tu vas voir.
Ça, ouais.
N'empêche, le gars il a mis pas longtemps à trouver le bouton. Hein. Après, j'ai un peu de mal à être surpris par ce gouvernement Bayrou, franchement, et par tout ce qui se passe ces derniers temps. Vraiment, je pense que la période qu'on vit actuellement, on n'aura pas besoin de la décrire dans les livres d'histoire. Un emoji clown suffira. On a l'impression que les gars, ils ont fait la liste de tous les trucs les plus dingues à faire au gouvernement, et maintenant ils cochent les cases. Allez, 1, 2, 3, ça c'est fait. Bon, par exemple, hein, y a Borne qui veut interdire aux profs de parler de queerness avant le lycée. Mais chérie, en fait, tu peux annoncer ce que tu veux, mais ça ne nous empêchera pas de répandre des paillettes dans nos classes et de faire des cours d'éducation aux sexualités. En vrai, personne lui a dit pour la liberté pédagogique, ça se passe comment ? Bon, après, on peut pas trop lui en vouloir de pas savoir, parce qu'en fait, elle l'a dit elle-même, elle n'est pas qualifiée pour être ministre de l'éducation. Moi vraiment, à mon prochain entretien d'embauche, je sors une Borne. Oui, non mais je suis parfait pour ce poste. Puis de toute façon, il n'y a pas besoin de compétences particulières pour occuper une fonction importante, non. C'est Elisabeth qui l'a dit de toute façon. Non mais elle, c'est comme Darmanin, tu penses t'en être débarrassée et à chaque remaniement, elle réapparaît ailleurs. Ambiance, voilà, poussée d'herpès, la meuf. Hein. Et en parlant de Morbac, c'est n'importe quoi ce qui se passe aux États-Unis, on est d'accord. Les camarades trans, ils s'en prennent plein la gueule. Trump est en roue libre. Le gars, son pays, il est en PLS et lui, il a un combat, un seul, la transidentité. Hein. Et c'est vrai que c'est efficace, cette technique de prendre un bouc émissaire et de chercher à le faire disparaître à tout prix, tout en détruisant les acquis sociaux dans le plus grand des calmes. Je me demande où il allait chercher ça, vraiment ça me... Je l'ai sur le bout de la langue. Mais bon, blague à part, il va falloir surveiller nos guignols en France, hein, parce que c'est contagieux ce genre de bêtises. Il y a déjà des patients zéro qui arrivent à se faire recevoir par Aurore Berger. Berger, je crois. Ouais, son nom ne revient pas de toute façon. Mais l'épidémie transphobe, du coup, elle n'est pas loin et il va falloir rester soudés.
Bon, d'accord, mais Père Castagne, est-ce que vous avez un plan pour sauver le monde ?
Alors, le monde, je ne sais pas, mais je pense qu'on a quand même quelques moyens d'agir. Ah. Okay. Les manifs, déjà, c'est réjouissant, alors on ne s'en prive pas. Il y en a plein qui sont prévus, allez, on y va, on sort ses pancartes. Mais dans un monde capitaliste, ce qui leur fait le plus de mal, c'est quand on arrête de jouer le jeu de la consommation. Et c'est aussi valable pour les applis. Parce que quand un patron de réseaux sociaux fait de la grosse merde, eh ben, on peut tout à fait le remettre à sa place en arrêtant d'utiliser ses plateformes. Mmh. Alors oui, c'est vrai que ça fait peur parce qu'on s'est bien habitué à Instagram, X Twitter, Spotify et autres monopoles. Mais ça fait des années qu'il existe des alternatives open source. Par exemple, il y a le Fediverse. Oui, la blague est intentionnelle. Dans lequel vous retrouvez Mastodon. C'est une sorte de Twitter slash Facebook. Et pour les aficionados d'Instagram, il y a PixelFed. Alors c'est le même fonctionnement, même interface, mais plus éthique. Et en plus, tu peux t'y connecter avec ton compte Mastodon. Mmh. Franchement, hyper rapide et en plus, c'est de gauche. Et puis pour échapper à WhatsApp, eh ben, y a Signal. Bref, des solutions, il y en a. Mais bon, tout ça, ça pose aussi la question des smartphones. Parce qu'actuellement, ils sont fabriqués à partir de matériaux sourcés de manière pour le moins problématique. Hein, parce qu'on est quand même bien content que ce soit le chaos au Congo. Comme ça, on peut bien exploiter les travailleurs des mines qui fournissent à bas prix les composants de téléphones. Vraiment, c'est tout bénef pour les entreprises type Apple et autres requins de la téléphonie. Franchement, qu'est-ce qu'on fout à encore acheter leurs produits de merde ? Non mais vraiment. Et en fait, les mouvements féministes le disent depuis longtemps. Si on s'arrête, tout s'arrête. Et bah pour les billionnaires et leurs réseaux sociaux, c'est pareil. Sans nous, ils sont rien. Alors venez, on se lève et on se casse.
Mais voilà une bonne idée, merci beaucoup Père Castagne. Après cette chronique, je ne peux plus du tout vous inviter à nous suivre sur Instagram. Je suis très bien emmerdée. Père Castagne, en tout cas, vous partez en musique avec un extrait du dernier album de Compromat, I Did Not Forget You, dans le lobby de Radio Campus Paris.
Je me souviens de nos vacances où nous restions près de la cheminée, se prélassant tout en étant enlacés, trop de MD sans surveillance. Je me souviens de la première fois où tu m'avais chauffé à blanc. J'étais rentrée toute seule en y pensant, je m'étais branlée. Ce que t'as de toi, irrésistible fond de l'enfer.
I did not forget you.
Je ne t'ai pas oublié. Je ne pourrais.
I Did Not Forget You, Compromat featuring Red Car, extrait du dernier album de Compromat, Praying Playing, paru chez Warrior Records.
Le lobby. Radio Campus
Paris. Yeah.
Et à 20h34, Juliette Droit, on vous retrouve pour évoquer Cui-Cui, votre premier roman qui est apparu au Seuil. Roman qui a lieu dans une société où les enfants ont le droit de vote. L'action commence même à la veille du premier tour de la présidentielle 2027. C'est une idée que vous défendez depuis quelques temps déjà. En 2022, vous aviez écrit un article de blog sur votre blog Mediapart. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette idée du droit de vote des mineurs ou des enfants? Peut-être que la différence entre mineurs et enfants est pertinente d'ailleurs, je ne sais pas, vous me direz.
Je sais pas non plus.
D'accord, alors, revenons sur le droit de vote. Qu'est-ce qui vous plaît?
Non, mais les deux, pour moi, c'est satisfait, parce qu'enfin, je crois que la racine, ça veut dire sans voix.
Sans voix, ouais.
Et oui, et mineur, bon, bah, minorisé, bon, ça c'est explicite.
On connaît. Donc voilà, le droit de vote des enfants. on se concentre.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous plaît dans cette idée que vous défendez depuis quelques années?
Qu'est-ce qui me plaît? Bah, c'est sûrement une... Déjà une manière très concrète d'amener la réflexion sur la domination des enfants, parce que dès qu'on commence à réfléchir justement à pourquoi les enfants n'auraient pas le droit de vote, enfin en tout cas ne pourraient pas s'en emparer quand ils le souhaitent, tout de suite on voit rejaillir en fait les mêmes arguments qu'il y a eu contre d'autres populations pour qu'elle n'ait pas le droit de vote. Donc c'est intéressant de voir que ça se reproduit. Je trouve que c'est une bonne entrée en matière, ça. Ils sont trop bêtes,
voilà.
Ils vont pas comprendre, ils sont immatures, ils vont mal voter. Bon, tout ce qu'on a dit pour les femmes ou les personnes noires, enfin, c'est toujours la même rengaine. Et en fait, donc déjà pour ça, je trouve que c'est intéressant, parce que voilà, c'est une porte d'entrée concrète sur la question de la minorisation. Et aussi, du coup, qu'on peut revendiquer également concrètement. Donc je trouve intéressant qu'on revendique concrètement d'abaisser l'âge des enfants, parce que ça permettrait de, si elles devenaient une population électorale, ça leur permettrait d'avoir même un léger poids, donc d'être considérées aussi dans l'agenda politique comme ayant du coup une importance. Donc pour plein de raisons, je trouve ça intéressant.
Ce qui changerait du coup la manière dont les personnalités politiques qui se présentent à des élections se parlent aux électeurs et devraient faire en sorte que du coup ça soit un sujet qui ne soit pas construit comme étant incompréhensible.
Tout à fait. Et en plus, je trouve que les enfants ont des propositions politiques incroyables. Enfin, j'étais en Suisse en novembre pour suivre des propositions politiques des enfants qui ont entre 10 et 12 ans. Souvent, on demande « Ah, mais c'est quoi l'âge ?» etc. Bon, déjà, pour moi, c'est quand on s'en empare, c'est comme on ne destitue jamais du droit de vote. Les gens ne leur disent jamais « Bon, écoute, là, franchement, tu n'arrives plus à te rappeler comment manger, arrête de voter. » Tu vois. Ça se fait, quoi.
Ouais.
Bah, pour les enfants, ça devrait être pareil. Mais bref, en tout cas, ensuite, soit j'ai des enfants de 10-12 ans et juste leur projets politiques sont très à la fois étayés, mais aussi dans la forme. Je trouve que c'est toujours impressionnant de voir, parce qu'il y a justement d'autres manières de penser qui émergent. Bref, c'est peut-être pas très intéressant.
Mais si, totalement. Et en plus, c'est un peu contre-intuitif. C'est ce que dit notamment l'autrice Clémentine Beauvais, qui a sorti un tract chez Gallimard qui s'appelle « Pour le droit de vote dès la naissance », donc une proposition peut-être un peu provocatrice, et qui dit « Voilà, ça représente quand même 20% de la population française. » Ça reste quand même assez important. Je crois d'ailleurs que c'est le point de départ de votre roman. Cet article de blog de Mediapart. Comment, et dans Cui-Cui, vous expliquez même potentiellement comment on pourrait mettre concrètement en place le droit de vote pour les enfants.
J'avoue que je ne me suis pas non plus penché trop sur le concret, mais en tout cas, effectivement, Cui-Cui est né de cet article de blog. C'était d'abord une commande d'une nouvelle. La version un peu fiction de cet article par Élise Thiébaud. Et juste pour précision, les personnes peuvent aussi les enfants peuvent voter, mais aussi se présenter. Je trouvais que c'était intéressant aussi.
Absolument, ils peuvent se présenter, ils organisent dans votre roman des groupes de thérapie autogérée, ils soutiennent aussi la fugue comme une arme politique. Là, vous nous parlez des discussions auxquelles vous avez assisté de la part d'enfants entre 10 et 12 ans, mais c'est vrai que quand on voit votre roman, il y a un petit peu un réflexe aussi, on se dit oui, mais c'est un roman, ça n'existerait jamais dans la réalité. Et en fait, là, ce que vous venez de nous dire un peu ce soir, c'est que non, on n'est quand même pas loin d'une réalité qui serait possible si on les prenait un petit peu plus au sérieux, ces enfants, en fait.
Mais tout à fait, c'est ça que je trouve très étonnant, c'est parce que en fait, dès qu'on les entend parler, c'est toujours passionnant. Mmh. Donc c'est assez étonnant cette espèce de contraste, parce que beaucoup de personnes ont accès dans la société à la parentalité, donc devraient être les premiers à se rendre compte que c'est quand même très intéressant en rapport avec un enfant. Et quand on pose des questions, y compris profondes, il y a une réponse très profonde. Par exemple, là, il y a une exposition au Grand Palais, j'arrive plus à me rappeler du nom de l'artiste, mais elle interviewe aussi des enfants à la fin sur la foi, notamment sur le rapport à l'âme. Et c'est, toutes les réponses sont plus deep les unes que les autres.
Du moment qu'on les écoute.
Donc c'est quand même assez étonnant cette espèce de contraste entre une ferveur à dire que les enfants sont incapables, ou quand on imagine l'idée qui est le vôtre, à être là, mais en mode mais pas du tout. Alors que dans la vie quotidienne, on voit bien que c'est toujours intéressant.
Alors cela dit, les enfants de votre roman Juliette Drouard ne sont pas totalement livrés à eux-mêmes. Cucu va pouvoir compter sur l'aide de Madame Gisèle, qui est un petit peu désemparée face à ce qui arrive à cet élève. Comment est-ce que vous avez construit ce personnage ?
La pauvre, elle souffre.
Qui veut vraiment bien faire, mais qui a tellement peur de mal faire, quoi.
Ouais. Je pense que j'ai glissé un peu d'ailleurs dans ma tête, parce qu'au début, j'étais parti. Mais il y a plusieurs glissements dans le roman que j'ai pas beaucoup repris, où j'étais parti d'une prof de qui j'avais un moins bon souvenir, et puis après, ça glissait vers cette Madame Gisèle qui, en fait. Où j'ai beaucoup de tendresse pour ce personnage qui est confronté à une immense difficulté, c'est-à-dire d'entreapercevoir les violences que vit son élève, en même temps sans qu'il y ait un récit complet qui soit livré, quoi, et de ne pas savoir quoi faire, quelle est sa responsabilité exacte, et qui est extrêmement angoissé finalement que, in fine, de la mort possible de cet élève.
Cui-cui, c'est le nom de votre premier roman paru au Seuil. Merci infiniment, Juliette Drouard. Vous serez demain à la librairie Lafayette à Paris, c'est bien ça ? Je vais le noter, mais je n'ai pas relu même.
Oui, c'est ça.
pour une rencontre autour de votre livre. Et puis on vous retrouve aussi le 16 février à 16h au Centre Pompidou pour une table ronde baptisée « Enfances abîmées, regards croisés ». C'est dans le cadre du festival Effraction. Merci beaucoup. Dans un instant, dans le lobby, on accueille Maddy Street. Alors restez avec nous, puisque Maddy Street, après un EP inclassable sorti en octobre dernier, eh bien, elle enflammera la scène de la Boule Noire le 12 février. Donc restez avec nous sur Radio Campus Paris. Got big dreams and a big heart. One cute chick in a cool car. Make it electric, don't need to go fast. If she pricey, then we won't last. Got big dreams and a big heart. One cute chick in a cool car. Make it electric, don't need to go fast. If she pricey, then we won't last. Je gère avec le refrain, mais moi je suis plutôt casé. Tant qu'à la fin du mois, y'a de quoi me payer loyer. J'ai une belle go avec qui ça fait des années. Que c'est carré, ouais c'est carré. I'm just too big, if they fuck you up. Press a coup too big, don't know who to trust. I'm not there yet, but I won't give up. Nah, I can't give up. Got big dreams and a big heart, want a cute chick in a cool car. Make it electric, don't need to go fast. If she pricey, then we won't last. Got big dreams and a big heart, want a cute chick in a cool car. Make it electric, don't need to go fast. If she pricey, then we won't last. Don't need to go fast. If she pricey, then we won't last.
Vous écoutez toujours Le Lobby de Radio Campus Paris et à l'instant c'était Big Dreams de Maddy Street qui vient de nous rejoindre en studio. Bonsoir Maddy Street.
Bonsoir.
Sois le bienvenu, on est ravis de te recevoir dans Le Lobby. La chanson qu'on vient d'entendre est extraite de ton dernier EP Hurt Choices qui vient après un joli chemin déjà. Tu mets le mot choix dans le titre de cette EP et pourtant tu refuses toi toujours de faire un choix en termes de style musical. Tu es aussi versatile que la Switch Beach dont tu parles dans le premier titre de cette EP. Pourquoi cette incapacité à faire des choix?
Parce que je suis hyper active. Voilà pourquoi, parce que dans ma tête ça va dans tous les sens, donc pourquoi se limiter en fait au final?
C'est la vraie réponse.
Oui, tout à fait. Ouais.
Comment tu définirais Maddy Street aujourd'hui?
Maintenant je dis que c'est de la pop frontale quand je dois faire court, et quand je dois faire long je dis que c'est de la pop mélangée à du rock, du rap, de l'électro, du punk, de la drum and bass, de la house et toutes ces belles choses.
Et tout ça, ouais. Bah ouais. Oui absolument, c'est un peu ce que j'avais plus ou moins compris effectivement, mélange de rock, de rap, d'électro. C'est quoi toi tes inspirations musicales? Je tombais un petit peu en scrollant sur ton compte Instagram tout à l'heure, désolé pour cette question, mais tu parlais un peu des artistes qui te plaisaient en disant voilà, si vous aimez Little Sims, venez me voir à la boule noire. C'est quoi un petit peu les artistes qui t'inspirent et qui te portent aujourd'hui?
Bah, Little Sims, c'est la première personne qui me vient en tête là, parce qu'elle, elle fait du rap, mais elle mélange aussi beaucoup d'autres styles et elle se laisse une liberté dans la composition que moi je trouvais est vraiment chouette. Sinon, à la base, je viens du rock, donc plutôt Fleetwood Mac, Beatles, Rolling Stones, tout ça, et après du rap ou de la pop alternative, j'écoutais, bon, je l'écoute plus, mais beaucoup de Kanye West, du Frank Ocean aussi, et du Kendrick Lamar, et ouais, enfin la liste est longue.
Ouais. Et nous n'avons pas tant de temps que ça. Ça veut dire que tu as grandi dans un environnement aussi avec toutes ces influences là, ou c'est une culture que tu t'es construite?
Non, tout à fait, parce que mes deux parents sont anglais, donc Street d'ailleurs c'est mon nom de famille, c'est pas un nom de scène, je le
mais
précise. Si, je te jure, je le précise où je vais, parce que faut le dire quand même. Donc mes deux parents sont anglais, donc j'ai grandi avec une culture anglophone musicale entièrement, ouais.
Toi, du coup, tu es franco-britannique, si je ne dis pas de bêtises, et tes paroles, notamment Big Dreams, on vient de l'entendre, alternent comme ça entre le français et l'anglais, parfois même le franglais. Comment t'écris tes textes? Quelle est la langue qui devient la plus naturellement?
L'anglais, quand même, parce que du coup, c'est ma langue maternelle, et en plus, celle avec laquelle j'ai grandi musicalement dans mes influences, mais de plus en plus le français. Je pense que j'ai une envie d'être compris. En France aussi, parce que c'est où je me produis.
Et c'est vrai qu'en France, on écoute quand même vachement moins les paroles en anglais, quoi. On les comprend moins.
Je vais pas dire que le niveau d'anglais est nul en France, mais.
Mais vas-y, t'as vu comment j'ai dit Hurt Choices tout à l'heure.
J'ai pas osé te corriger, mais.
Mais d'accord, très bien. Autre chose à dire sur la langue, je vois que dans la chanson Loud, tu dis Want a verse, mais je te l'écris en quelle langue? Il y a quand même, c'est une question que tu te poses un petit peu tout le long.
Tout à fait. Enfin, il y a aussi la question de chanter en français pour que ça marche mieux en France. Enfin, c'est vrai qu'il y a toute une question autour de ça et de faire le choix de le faire. Est-ce que je fais ce choix-là ou pas? Mais le français, surtout pour le rapper, je trouve que c'est une langue qui se prête très bien au rap, c'est une langue très poétique. Et donc, elle me vient de plus en plus naturellement quand j'écris surtout des trucs un peu rythmiques ou rapides, quoi, en tout cas.
Dans les influences, on l'entendait un petit peu dans Big Dreams, moi j'avais l'impression aussi que tu tendais vers quelque chose d'un peu hyper pop aussi, qui est un style qu'on retrouve pas mal dans la communauté queer avec des artistes comme Eloi, Théa, Thanks for Crying. Il y a un petit peu de ça aussi, au moins comme hommage.
Ouais, tout à fait, mais une version très soft de l'hyper pop. Je pense qu'elle se retrouve plus dans mon live, enfin on pousse les sonorités de façon un peu plus forte en tout cas, mais je dirais pas que j'en fais, je pense.
D'accord.
Je pense que ça se rapproche plus de la house ou de la drum and bass, des choses comme ça, que de l'hyper pop.
Dans tes chansons, tu parles d'histoires d'amour lesbiennes, comme dans British Girl, tu parles aussi de transidentité. Comment est-ce que tes chansons, elles sont accueillies, pas forcément par ton public, mais peut-être aussi plus largement par des labels, par les gens avec qui tu travailles dans l'industrie?
C'est marrant que tu me poses la question. Je vais pas parler de labels, mais par exemple, mon père, sa chanson préférée du set, c'est Shrek is a Lesbian. Genre,
on va parler après.
Premier
degré. Banger.
Et sinon, je trouve que c'est plutôt bien accueilli déjà, parce qu'en vrai, comme ce qu'on disait tout à l'heure, les gens comprennent pas tout le temps les paroles. Mais
c'est bien pratique parfois, quand même.
Ouais, là, on s'en sort bien quand c'est comme ça. Mais il m'est arrivé une dinguerie lors d'un premier concert. Quelqu'un était venu me voir après en me disant: ah, attention, tu dis her dans les paroles, en pensant que je savais pas parler anglais. Et donc c'est genre du double mansplaining et effacement de ma queerness totale.
Et
donc
oui.
Voilà. Mais non, c'est quand même bien reçu.
Toi, tu es ouvertement non-binaire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus simple qu'avant? Alors, as-tu des moyens de comparaison? Mais ça fait quand même 5-6 ans que tu fais de la musique aujourd'hui. D'être un artiste non-binaire avec, qui plus est, des convictions politiques aussi dans cette industrie musicale.
Alors, plus simple, je sais pas. Franchement, j'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire qu'on en parle plus, mais je suis pas sûre que ça rende ça plus simple. Je pense que déjà, ça nous limite, ça nous met dans des cases. Enfin, là, je suis dans une émission où on est pour parler de queerness, mais souvent, je fais des interviews où j'ai que 5 minutes et d'un coup, c'est le thème qui ressort le plus, alors que tous mes sons, en vrai, parlent pas de ça, ma musique ne parle pas que de ça non plus. Mais il y a... Enfin, le YEL, les gens, ils ont du mal, quoi. Disons les termes, les gens, ils disent « Ah non, c'est compliqué, et tout. » Et, bah, je sais pas.
T'as fait d'ailleurs un post Instagram assez hilarant récemment pour dire, en fait, c'est pas très difficile, vous aimez bien mes gros bangers, donc ça fait partie du processus aussi, respectez-moi.
Voilà, voilà. J'ai un peu... Enfin, c'est ma touche de, on va dire, sarcasme anglais, je pense, qu'il y a sort dans ce genre de post où j'en avais marre, et en fait j'ai créé le post pour pouvoir l'envoyer en DM à des gens qui se trompent, comme ça j'ai pas besoin de refaire
d'explication. Oui, il y a une slide effectivement que vous pouvez envoyer à des gens qui mégenrent ma district sur les réseaux sociaux.
Voilà,
nous, cet été, t'en as parlé, hein, on a streamé en boucle ton tube, ton banger Shrek is a lesbian en duet avec Judas la Vidange. Pourquoi cette chanson? On veut en savoir plus.
Alors avec Judas, on voulait absolument collaborer, faire un feat. On s'est posé en studio et en gros, on a fait une liste de plein de trucs stéréotypés queer. Et je sais pas pourquoi, Shrek est ressorti. Il y a comme un... Enfin, les personnes queer relate beaucoup à Shrek, je pense.
On a une chroniqueuse qui s'appelle Lucie qui dirait pas le contraire, effectivement.
C'est un ogre qui est tout seul, qui est mal compris de la société, qui est un peu bizarre.
Qui vit dans son marais.
Qui vit dans son marais, en plus, voilà. Et on s'est dit, quoi de plus hilarant que de rendre Shrek lesbienne, et voilà, c'est parti comme
ça. Shrek est quand même très marié à Fiona. Enfin,
oui, mais peut-être que Shrek est une femme trans au final, tu vois.
Voilà. C'est génial comme... Voilà. Ça nous permet de parler de ces personnages un peu queer-codiques, parce qu'il y en a dans Shrek lui-même peut-être, mais c'est pas le seul. Juste avant Shrek is a lesbian, il y a eu la chanson Villains en duo avec Wim Therapy, tous ces mots en anglais que tu me fais dire, c'est très très vieux. Et qui commence par cette phrase... I've always wondered why I love the villains more. Je me suis toujours demandé pourquoi je préférais les méchants. Je l'ai dit très vite comme ça, ça passe. Est-ce que tu as trouvé une réponse depuis?
Non. Je suis toujours aussi, toujours autant de crush sur des villains et je pense que ça changera pas d'ici demain, mais c'est pas grave. Ça fait des belles chansons.
Bah ouais. On parle de villains, c'est aussi l'occasion d'ailleurs de dire quelques mots de tes clips qui sont très esthétiques et préciser que tu es des deux côtés de la caméra. Comment ça se passe ce processus-là?
Du coup, je co-réale souvent avec quelqu'un. Donc les derniers clips, ça a été avec Mélodie Sissou, qui est d'ailleurs une réalisatrice queer. Et en fait, quand j'écris, j'ai très rapidement des images qui me viennent en tête. Et moi, je viens du montage à la base, parce que j'en faisais même limite avant de faire vraiment de la musique. Et donc, c'est très important pour moi d'avoir, d'avoir la main là-dessus et de pouvoir coller autant les sons que j'ai dans la tête que les images que j'ai dans la tête. Ouais.
Et ça donne des très très beaux résultats à voir absolument. Le 12 février, tu seras donc sur scène à la Boule Noire pour clôturer une tournée d'une centaine de dates en 2 ans. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toutes ces occasions de, comme on dit, défendre tes titres sur scène? Qu'est-ce que ça a changé aussi dans ton processus artistique? Parce qu'il y a des chansons qui sont sorties pendant ces 2 ans.
Ça m'a donné envie d'écrire des choses plus fortes. Des choses qui... Enfin, plus poussées dans les sonorités, et limite de crier plus de guitare disto, des plus gros kicks. Enfin, c'est ça que le live, moi, m'a apporté. Et j'adore ça. C'est vraiment ce que je préfère, c'est d'être sur scène. Et d'avoir fait quasi 100 dates, là, en 2 ans, on pense qu'on serait fatigué, mais là, je le suis pas. J'ai
T'as
hâte
envie
que
de
ça
continuer.
Reprenne. Ouais.
Et j'ai vu d'ailleurs que tu recrutais récemment une ou un batteureuse.
Ouais.
Est-ce que ça veut dire qu'on va te voir sur scène avec une plus grande formation musicale?
Oui, là on est. Donc là je suis à deux avec une bassiste, guitariste qui m'accompagne, qui s'appelle Ambre. D'ailleurs, je pense qu'elle écoute, donc bisous Ambre.
Bisous.
Là on va être à 3 du coup à partir de cet été. L'audition pour les batteries, c'est la semaine prochaine et j'ai tellement hâte que ça tape du pied sur scène.
Ouais. Et merci beaucoup, Maddy Street. On écoute son EP Her Choices sur toutes les plateformes, mais préférablement pas trop sur Spotify, qui a participé au financement de la cérémonie d'investiture de Trump, en plus de proposer une rémunération très faible aux artistes. Tu vois, Père Castaigne, moi aussi, je suis capable d'être un petit peu engagé. Et surtout, on vient te découvrir, Maddy Street, en live sur la scène de la Boule Noire. Ce sera le 12 février, c'est très très vite. Prenez vite vos places. Un grand merci à toi. 20h54, presque 55, on est dans les temps, et ça, Victor, c'est rare que ça arrive.
À toi. Retour en arrière. On est en août 2019, je vois un post sur un groupe queer de Facebook. Des personnes proposent de créer une émission LGBT+, sur Radio Campus Paris. Ça fait 4 critères. À ce moment-là, le campus, c'est assez loin derrière moi. Mais je remplis les trois autres. Faire de la radio me branche, je suis LGBT+, et j'habite Paris. Donc je me dis, allez, envoie un mail. Un café à Beaubourg, quelques mois sans nouvelles et une relance de dernière minute plus tard, me voilà en débarquant place des Vosges pour enregistrer une chronique, écrite une demi-heure avant l'émission, mon ordi sur les genoux. Ça parlait d'artistes queer, d'alliés et de featuring improbables. Je citais Taylor Swift. C'était avant que je réalise qu'avoir épousé un Swiftie, ça voulait dire se fader l'intégralité de ses albums en boucle pendant 3 mois avant la tournée mondiale et entendre des phrases comme « Mais il faut écouter les paroles, c'est de la pure poésie ». Je citais aussi Nekfeu. Ça, c'était avant de savoir qu'il estimait que sa compagne lui devait soumission et humilité. Et je citais Bilal Hassani. Et ça, c'était avant qu'on essaye 17 fois de l'avoir dans cette émission. Quelques émissions plus tard, on s'est retrouvés à deux avec Colin. On a préparé des émissions à distance depuis nos appartements respectifs en confinement. Je me suis arraché les cheveux à monter en 20 minutes mes interviews de 2 heures, dont une bonne moitié de mes questions, il faut le dire, logoréiques. On a appris à lire des livres en quelques heures aussi à cause d'annulations. On a réussi à faire un live de plus de 3 heures en changeant le lieu et la moitié du plateau le jour même. Et on a tenu toujours. On n'a pas fait sauter une seule émission et malgré des moments de doute, j'ai toujours été content de voir ce bébé grandir. Ces 5 années, elles ont eu pour moi des rôles multiples. Une cure de jouvence intellectuelle et militante d'abord, m'obligeant à rester connecté à des réalités théoriques et de vécu au cœur de nos communautés dont je me serais peut-être éloigné sinon. Merci donc d'avoir reculé d'année en année ma boomeritude. Ça a été ensuite une source de joie, recevoir tant de belles et beaux invités et de pouvoir agrémenter des discussions d'un J'adore son travail, en plus je l'ai reçu à la radio et elle est adorable. Merci donc de m'avoir permis de briller en société. Le lobby, ça a aussi été un très bon dérivatif à la psychothérapie. J'y ai parlé de harcèlement, de perte de repères, d'estime de soi, de viol, de deuil aussi. Pas toujours très pudiquement peut-être, mais avec une sincérité que je me suis rarement permise ailleurs. Alors merci de ne pas m'avoir facturé mes séances. Et puis enfin, et peut-être aussi par-dessus tout, le lobby, ça a été un creuset merveilleux de rencontres tout aussi merveilleux. Vous êtes trop nombreux que ça être passé par l'émission pour que je vous cite tous, donc je vais me cantonner au crew que j'ai côtoyé le plus longtemps. Xavier et ses pépites musicales, Zoé et ses chroniques érudites, Olga Auguste et ses éditos testo, Margot à la réalisation, et enfin, mon petit frère de Queeristan et mon grand frère de radio, mon formidable Colinou. Quand je t'ai rencontré, j'avais l'âge que tu viens de fêter il y a quelques semaines. Et 5 ans plus tard, je suis drôlement fier de ce qu'il est devenu, notre enfant. Je dis notre enfant, mais c'est vrai que dernièrement, j'en ai assumé la garde, à peine un week-end sur 4 et 1/10 des vacances scolaires. Alors si je suis revenu ce soir, c'est parce qu'il est temps pour moi de le laisser partir, cet enfant. Ses ailes sont jeunes encore, mais je sais qu'il peut désormais voler seul maintenant. Alors, longue vie à la radio, longue vie à nous les queers, et longue vie au lobby. Et Colin, j'espère que nous fêtons tes 34 ans ensemble, devant un micro, une pinte ou un bol de ramen.
Bon, bah voilà, comment j'enchaîne là-dessus, moi, maintenant. Merci beaucoup, Victor. Tu reviendras peut-être quand même, on dit que c'est ta dernière chronique, mais peut-être pas, peut-être que... peut t'arriver.
Peut-être que pas, finalement.
Merci beaucoup, c'est l'heure de l'agenda quand même pour finir cette émission. Je rappelle qu'on retrouve Madistrip le 12 février à La Boule Noire et puis de la musique encore le 15 février, ce sera au Trabendo avec un concert exceptionnel de la Queerale, le chœur queer et trans de Paris. Rendez-vous dès 19h pour le live show Pop and Fags en compagnie de l'artiste drag Power Bottom. Chat.
Le 16 février, les féministes révolutionnaires organisent également une préparation à la grève du 8 mars. N'hésitez pas à les rejoindre, il faut s'inscrire.
Le 16 février, Madistrip.
Moi je vous invite à aller écouter l'EP de Little Sims, Drop 7, qui est vraiment chouette.
Est-ce qu'il y a d'autres recommandations? Parce que je fais des si, mais personne ne me regarde. Très bien, à la réalisation de cette émission, merci à Suzanne Sinca aux chroniques, merci à Chat et à Victor, merci. Merci à Zoé qui nous a aidé à préparer cette émission. Vous retrouvez sur toutes les applications de podcast, mais pas certaines, vous savez, etc. Et sur le site de Radio Campus Paris. Restez à l'écoute du 93.9 FM, car dans un instant, si tout se passe bien, car je ne les vois pas arriver, mais normalement ils sont là, vous avez rendez-vous avec Elodie qui vous emmène, comme chaque mardi soir, au pays des rêves. Si Suzanne me dit qu'ils sont là, très bien. Et je crois d'ailleurs qu'on parle de santé mentale ce soir. Allez, passez une bonne soirée sur Radio Campus Paris.